la science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil.
Voici notre itinéraire.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans ce nouveau rendez-vous de la Science s'amuse, l'émission scientifique coproduite par l'Université de Montpellier et Divergence FM. Ce mois-ci sort le 14e numéro de LUM, le magazine trimestriel de vulgarisation scientifique de l'université. Titré « Animalement vôtre », il vous propose une plongée dans un dossier consacré aux animaux. Au fil des pages, les chercheurs vous emmènent ainsi vers le grand large, dans le sillage des thons rouges, aux Antilles, sur les traces des premiers rongeurs apparus sur ces îles il y a plus de 30 millions d'années, à la recherche des espèces écologiquement rares, avec Nicolas Loiseau, que nous avions reçu ici même, ou encore en Namibie, et c'est notre invitée du jour qui nous y emmène. Elle est chercheuse à l'Institut des sciences de l'évolution. Son terrain de thèse, débuté en 2005, l'avait conduite à la rencontre des babouins Chakma aux portes du désert de Namib. Elle n'a cessé de les observer depuis jusqu'à devenir co-directrice du Tsaobin Baboon Project, pardon, dont elle nous dira un mot. Elle a sorti récemment un papier remarqué sur les manifestations de deuil chez les mères babouins Chakma. Élise Huchard, bonjour.
Bonjour.
Avec moi pour mener cette interview, comme chaque semaine, Aline Perriot.
Bonjour.
En seconde partie d'émission, le reportage en salle des machines nous emmènera au musée d'anatomie. En cette période de disette culturelle, Marie-Angeline Pinaille, responsable des collections, nous ouvre les portes de ce lieu hors du commun pour une visite bien privée. La science s'amuse, vous avez la carte, on embarque. Alors Élise Huchard, vous avez un terrain qui, comme certains terrains, font facilement rêver les gens, donc peut-être qu'on peut en parler un petit peu avant. Vous partez donc observer les babouins Chakma aux portes du désert du Namib, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, juste c'est la limite de la distribution de l'espèce, c'est pas encore le désert complet, mais c'est effectivement de la savane très très aride. Où les babouins Chakma, donc l'espèce que j'étudie, parviennent tant bien que mal à survivre.
Donc vous partez, je l'ai dit en introduction, depuis 2005 à peu près là-bas. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps vous passez quand vous partez en observation comme ça?
Alors personnellement, j'y passe beaucoup moins de temps que je n'y ai passé. Donc j'ai pour ma thèse et les années qui ont suivi ma thèse, j'y ai passé plus de 2 ans en cumulé, en restant des mois sur le terrain. Maintenant, malheureusement, c'est plutôt à rythme d'une mission de 2-3 semaines par an. Et par contre, mes étudiants, doctorants notamment, ils passent beaucoup plus de temps. On a en général une équipe sur le terrain à peu près 6 mois par an quand il n'y a pas le Covid qui nous empêche de travailler.
Et vous êtes plusieurs chercheurs dans un projet comme celui-là ou alors on a un peu ces représentations un peu à la Jane Goodall évidemment où vous êtes seul sur le terrain?
Non, c'est un travail d'équipe de A à Z en fait. C'est un projet international. Donc je suis co-directrice là, du Tsaobin Baboon Project mais avec 2 autres co-directeurs qui sont en Angleterre, donc à l'Institut de zoologie de Londres pour Guy Cowlishaw qui a fondé le terrain et à University College London pour Alessia Carter qui est aussi notre collègue. Et puis après sur le terrain c'est tout pareil du travail d'équipe. En général on a une équipe internationale de 6 à 8 personnes avec des assistants de terrain qui viennent de tous les pays, y compris des Namibiens bien sûr.
Et pourquoi est-ce que vous avez choisi précisément les babouins Chakma?
Alors, ce n'est pas moi qui ai vraiment choisi. Initialement, en fait, quand je suis arrivée, le projet existait déjà. Il avait été fondé par Guy Cowlishaw, donc c'est à lui qu'il faudrait poser la question. Mais les babouins, c'est l'un des mammifères les plus étudiés en écologie comportementale. Et la raison de ça, c'est que c'est une espèce terrestre. Donc, c'est un singe qui se retrouve dans de nombreux endroits, qui est très, très répandu en Afrique, donc qui est assez facile à habituer à la présence des observateurs. Donc, c'est un très bon modèle d'étude qui a été très populaire et il y a encore plusieurs sites de long terme d'études des babouins Chakma, des babouins en général et des babouins Chakma en particulier. Il y a 6 espèces de babouins en Afrique. Donc, c'est l'une des 6 espèces.
Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème un peu particulier, donc ce sont les manifestations du deuil chez ces babouins. Comment on mène une observation pareille? Parce qu'évidemment, on ne la provoque pas, la mort. Comment ça s'est lancé, ce projet de travailler sur les manifestations du deuil?
Alors, ça se passe dans le contexte d'un champ d'études qui est assez récent, en fait, qui a émergé dans les années 2010 à peu près, sur ce qu'on appelle la thanatologie évolutive. Donc, c'est la thanatologie évolutive, c'est l'étude des réactions à la mort des vivants. Avec une perspective évolutive, donc c'est là une perspective comparative. De plus en plus, les chercheurs essaient de documenter ça chez un nombre croissant d'espèces. Et pour l'instant, les études sont plus actives en primatologique dans d'autres taxons, notamment parce que les primates ont tendance à montrer des comportements assez visibles par rapport à la mort d'un proche. Et donc notre projet, il s'inscrit dans ce mouvement-là. Et effectivement, une des grosses limites, enfin pourquoi c'est un thème de recherche récent, une des grosses limites à l'étude scientifique de ces phénomènes-là, des réactions à la mort, c'est, comme vous l'avez dit, le fait qu'on va pas tuer des animaux pour observer les réactions à la mort. Donc c'est une recherche qui se fait de façon opportuniste, au fil de l'eau. Quand un membre de nos groupes d'études malencontreusement disparaît, on essaie de documenter ce qui se passe pour notamment ces proches, ses partenaires sociaux proches. Et donc là, c'est une étude qui s'est faite sur une quinzaine d'années où à chaque fois qu'on pouvait et qu'on voyait disparaître un individu dans nos troupes, on notait de façon qualitative les réactions qu'on observait.
Et vous avez observé plus particulièrement le deuil dans le cadre de la relation mère-enfant. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus comment ça se traduit, ce deuil-là, les manifestations que vous avez pu observer chez les babouins ou chez les femelles babouins à ce moment-là?
Oui, alors en fait, c'est dans cette étude assez large des réactions à la mort, c'est vraiment une approche qui a été plus importante que les autres, populaire, l'approche de l'étude du couple mère-enfant. Et après, pourquoi ? Parce que justement, ça se traduit par des comportements très visibles, comme je l'ai dit, à savoir que les mères vont porter leur enfant pendant plusieurs jours après la mort. Donc, on pense porter le cadavre de leur enfant. Ça va aller de quelques heures, ou ça peut aller jusqu'à quelques jours ou quelques mois dans d'autres populations, pas dans la nôtre. Chez nous, c'est un maximum de 10 jours à 2 semaines. Et ce faisant, elles vont continuer à prodiguer des comportements de soins envers le petit cadavre. Et donc, c'est un comportement on peut vraiment pas passer à côté quand on est observateur dans une troupe de babouins, parce que ça paraît toujours assez pathétique. Au bout de 10 jours dans le désert du Namib, le petit cadavre, il va ressembler à une momie, vraiment, avec... qui est déjà le corps est déjà un peu décomposé. On voit souvent des os saillir. C'est pas je vais pas aller plus loin dans la description, mais du coup voilà,
on imagine bien la scène. Moi, je me mets à pleurer tout de suite.
C'est ça, donc c'est assez marquant.
Et vous nous expliquez également que c'est des comportements qui leur coûtent à ces femelles, parce que ça va entraver les déplacements, par exemple.
Oui, alors en fait, surtout dans notre population, on a dit que c'était un endroit très aride. Donc les babouins, ils doivent se déplacer beaucoup pour trouver à manger au quotidien. Donc ils font des grands déplacements. Et les femelles qui portent leurs petits, elles ont... normalement, un petit vivant, il s'accroche tout seul au ventre de sa mère. Donc dès lors qu'il ne peut plus le faire, elles doivent soit le porter en marchant sur trois pattes, soit le porter dans leur bouche, soit... Et tout ça, c'est difficile pour elles de se nourrir en même temps qu'elles supportent ce poids-là. Ça dépend aussi évidemment de l'âge de l'enfant, s'il est mort nouveau-né ou s'il est mort plus vieux. Mais parfois, c'est effectivement un effort substantiel. Donc on se rend compte que ces mères, pour faire ça, il faut vraiment qu'elles tiennent beaucoup, a priori. À ce petit corps pour le porter pendant des jours comme elles le font parfois.
Donc c'est quelque chose qu'on observe que dans la relation mère-enfant, ou bien c'est des choses que vous observez aussi avec les adultes?
C'est quelque chose qu'on observe le plus souvent dans la relation mère-enfant, à savoir c'est en général la mère qui va porter l'enfant, mais ça peut arriver, on a observé d'autres cas, on a observé des cas où le mâle qui protégeait l'enfant de son vivant, qui est souvent le père de l'enfant mais pas toujours, va notamment faire des comportements de garde autour du corps de l'enfant, va pas forcément le porter, mais si la mère le pose au sol le temps d'aller manger un petit peu, il va être à côté, il va monter la garde près de cet enfant, ou même le toiletter, ou bien aussi dans le cas d'enfants orphelins, on a constaté que d'autres membres de la troupe pouvaient prendre la relève et porter le corps de ces enfants.
Et il y a une autre étude, un peu plus tôt, en 2007, qui avait observé le deuil chez les primates en analysant les taux de cortisol, l'hormone du stress qu'on pouvait retrouver chez les primates. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette étude qui est intéressante également ?
Oui, ça, c'est une très belle étude qui, en fait, est parue avant même cet intérêt plus généralisé, avant que ça se forme un peu comme un champ thématique. Hein. À ce moment-là, il n'y avait presque rien sur les réactions à la mort chez les animaux sauvages. Donc là, c'est une étude qui a documenté donc dans le delta de l'Okavango, ce n'est pas la population de babouins que j'étudie, c'est une autre population de babouins, mais c'est la même espèce. Les comportements des femelles qui avaient perdu un proche de prédation. Et notamment, ils ont pu analyser les comportements de toilettage, mais aussi, comme vous l'avez dit, les niveaux de cortisol dans les crottes de ces babouins qui collectaient. Et ils ont pu montrer que les taux de cortisol, qui est l'hormone de stress, étaient élevés dans le mois qui suivait la perte d'un proche par prédation. Et également que les comportements de toilettage avec d'autres individus augmentaient dans les 3 mois qui suivaient la perte d'un proche par prédation. Et donc, ces femelles qui apparemment étaient stressées par la perte de ce proche, elles compensaient d'une certaine façon socialement en ayant plus de liens sociaux et de comportements de toilettage qui, on peut spéculer que ça a une fonction d'apaisement et de réconfort, en fait.
Par prédation, c'est-à-dire que c'est un animal qui avait été tué par un autre animal prédateur?
C'est ça, en général. Le léopard principalement, d'accord, mais aussi des hyènes dans le delta de l'Okavango pour les babouins, ouais, tout à fait. C'est un endroit où il y a beaucoup de carnivores, donc il y a beaucoup de prédation pour les babouins de l'Okavango.
Ces manifestations de deuil, on a de la littérature dessus uniquement en ce qui concerne les singes et les primates, ou bien est-ce qu'on sait si d'autres animaux ont des manifestations face à la mort d'un proche? On avait vu ces images d'une baleine qui transportait le cadavre de son petit aussi. On en sait un peu plus sur ces manifestations de deuil dans les autres espèces?
Oui, alors en fait, les primates, s'ils ont été une cible préférentielle de ces études-là, c'est notamment parce qu'ils portent les bébés, comme je l'ai dit, et ça, a priori, on pense que c'est surtout parce qu'ils ont des mains, enfin, une capacité à porter les bébés.
On n'y pense pas, mais c'est un détail important.
Oui, exactement, c'est pas forcément parce qu'ils ont des capacités cognitives exceptionnelles ou parce qu'ils sont proches de nous, c'est peut-être aussi simplement pour ce genre de raisons pratiques. Après, les manifestations comportementales à la mort de proches ont été documentées chez d'autres taxons et à des études assez connues chez les éléphants, mais aussi chez les girafes. Plusieurs études, enfin c'est assez bien documenté chez les cétacés aussi, comme vous l'avez dit, notamment les dauphins, on sait qu'ils portent aussi les corps des petits. Ils n'ont pas de main, mais ils y arrivent quand même, souvent en se mettant à plusieurs, les corps des petits morts. Pendant des périodes prolongées aussi. Donc, oui, ces manifestations ne sont pas du tout limitées aux primates. Et en fait, on pense qu'elles sont assez répandues. Mais c'est assez, pour l'instant, c'est, comme je l'ai dit, un champ d'études débutant. Et puis, les manifestations, elles sont plus ou moins visibles, comme on l'a déjà évoqué, en fait. Oui.
Et justement, à partir de cette étude chez les babouins, est-ce que vous avez comme objectif de lancer un protocole d'observation du deuil chez davantage d'espèces?
Oui, en fait, c'était un petit peu la vocation de ce premier article. C'était un peu un coup d'envoi. Ça nous permettait de récapituler tout ce qu'on avait déjà pu observer de façon opportuniste, comme je l'ai expliqué, dans notre population. Mais on a choisi maintenant de mettre en place un protocole plus systématique qui fait que maintenant, à chaque fois qu'un petit disparaît dans le groupe ou même un membre adulte du groupe, on observe de façon très rapprochée, systématique, dans les jours qui suivent cette disparition. Le membre socialement le plus proche de l'individu qui a disparu et un membre contrôle ou témoin qui est un membre qui, au contraire, n'était pas du tout proche de l'individu disparu, de façon à pouvoir mettre en évidence des comportements, des manifestations plus subtiles du deuil, comme par exemple une baisse de la prise alimentaire si les individus qui peut marquer une réaction émotionnelle, par exemple, si les individus ont du mal à se nourrir ou alors un changement de comportement social avec notamment des manifestations de compensation comme celle du toilettage que j'ai décrite.
Alors, la question à 1000 points, c'est bien sûr, est-ce que ces manifestations de deuil sont, selon vous, la preuve d'une conscience de la mort chez les animaux? Je dis que c'est la question à 1000 points parce que j'imagine qu'on vous la pose à chaque fois et que la réponse est loin d'être facile à donner.
Alors, la réponse est assez facile à donner, dans le sens où on peut dire clairement non, c'est pas une preuve du tout, c'est deux choses assez séparées. En fait, ce qu'on appelle le deuil en écologie comportementale, là, on fait référence à des manifestations vraiment physiologique et émotionnel lié à la disparition d'un proche. Donc, ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, par exemple, une augmentation de l'hormone de stress, des comportements qui marquent une réaction émotionnelle. Alors que la conscience du deuil, là, on fait appel à un phénomène vraiment cognitif qui est comment les animaux comprennent la mort. Donc, c'est une question différente. On peut avoir une réaction émotionnelle forte, montrer des émotions très tristes à la perte d'un proche sans forcément avoir bien conscience de ce qui se passe. En ce moment, il y a de plus en plus de chercheurs qui se posent la question de la conscience de la mort, et c'est une question qui est considérée comme interdisciplinaire. En ce moment, il y a des philosophes, en particulier des philosophes qui s'intéressent aux animaux, au comportement animal, qui développent la question et qui posent la question de quels seraient les éléments expérimentaux qui nous permettraient d'en savoir davantage sur la conscience de la mort. Ce qu'on peut dire notamment, c'est qu'a priori, c'est pas du tout quelque chose de binaire. On a conscience de la mort ou on l'a pas. C'est quelque chose de probablement très très graduel. Donc on a plusieurs niveaux de conscience de la mort, et c'est un peu dans cette direction que les recherches s'orientent, à la fois en philosophie, en psychologie, en écologie comportementale.
Et vous, par ailleurs, vous ne travaillez pas ni uniquement sur le deuil, ni uniquement sur les babouins chaque mois. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu sur quelles autres espèces vous travaillez et dans quelle autre région du monde ça vous amène ?
Alors, en ce moment, les babouins chaque mois, c'est quand même mon principal modèle d'étude. Enfin, en plus, je suis co-directrice de cette station, donc ça, c'est quelque chose qui a vocation à durer. Mais j'ai travaillé dans le passé sur plusieurs autres espèces, sur des lémuriens de Madagascar, les microcèpes gris, des tout petits lémuriens nocturnes et solitaires. J'ai travaillé aussi sur des suricates qui vivent dans le Kalahari en Afrique du Sud, qui sont des petites mangoustes, un carnivore cette fois, pas un primate très très social, et qui vit dans des sociétés coopératives. Donc ça, ces différents organismes, c'est intéressant parce qu'ils ont des systèmes sociaux très très différenciés. Donc, et de façon générale, je m'intéresse vraiment à l'évolution des comportements sociaux. Après, en termes de thématique de recherche, au-delà de ces différentes espèces, je me suis beaucoup intéressée aux relations entre les mâles et les femelles, à la fois aux relations dans des contextes de reproduction, mais aussi dans des contextes sociaux en reproduction. Donc ça, c'est un des fils rouges de ma recherche. Notamment, par exemple, en ce moment, j'ai des projets qui essaient de comprendre pourquoi dans certaines espèces, les femelles sont dominantes sur les mâles et pas dans d'autres. Mais voilà, mes thématiques de recherche sont très, très diverses. Il y a des thématiques qui s'intéressent aux comportements familiaux aussi, par exemple à la rivalité entre frères et sœurs, à des traits plus écologiques comme l'évolution de la reproduction saisonnière, pourquoi certaines espèces se reproduisent de façon saisonnière et d'autres non. Donc voilà, très, très, c'est très varié.
Mais ça a l'air passionnant.
Merci.
On voit aussi, donc, quand on regarde votre bibliographie, on voit que vous avez multiplié les collaborations, notamment dans vos papiers avec l'Angleterre. Est-ce qu'il y a une tradition, c'est peut-être l'image qu'on s'en fait, mais une tradition éthologique plus forte dans les pays anglo-saxons qu'en France, où on a l'impression que c'est pas autant relayé peut-être qu'en Angleterre ?
D'un point de vue académique, c'est sûr que les structures de recherche sont beaucoup plus développées. La communauté de recherche en écologie comportementale est beaucoup plus développée dans les pays anglo-saxons. C'est une raison pour laquelle je suis allée faire mes post-docs là-bas. C'est aussi ces collaborations, c'est aussi un peu ce qui reste de ces liens-là. Je pense que... Après, ça correspond aussi probablement à une culture qui est plus naturaliste dans les pays anglo-saxons. On sait qu'il y a, par exemple, c'est des émissions de la BBC ou de BBC Nature ont des succès absolument énormes. C'est vraiment la discussion autour de la machine à café le matin. Est-ce que tu as vu la dernière émission de Planet Earth ou de la BBC où c'est, je pense, assez différent en France. Mais je pense que c'est émergent et qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour ces thématiques-là, et que de la même façon, la communauté de recherche académique, il y a de plus en plus d'écologie comportementale aussi en France.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup Élise Huchard d'avoir bien voulu venir parler de vos recherches passionnantes donc sur le plateau de La Science S'amuse. Merci beaucoup.
Je vous en prie, merci à vous aussi.
Et on passe maintenant à la rubrique En salle des machines.
Il y a quelqu'un qui m'entend ?
Oui, qu'est-ce que vous voyez ?
Un iceberg droit devant !
Et cette semaine, nous vous emmenons dans un lieu très, 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 très particulier de l'Université de Montpellier, un lieu au cœur de la faculté de médecine. Il s'agit du musée d'anatomie. Et c'est Marie-Angeline Pinaille, la responsable des collections, qui nous ouvre les portes de ce lieu hors du commun et magique pour une visite privée.
Il faut imaginer, quand on visite ce lieu, qu'on est là au 19e siècle avec les étudiants.
Thank you.
Je suis Marie-Angeline Pinaille, régisseuse des collections à l'Université de Montpellier et je suis en charge des collections d'anatomie à la Faculté de médecine. On est dans le Conservatoire d'anatomie, qui est un conservatoire qui a été inauguré en 1851, qui se situe dans l'aile d'anatomie qui a été construite au milieu du 19e siècle. Les collections sont classées au titre des monuments historiques, tout le mobilier muséographique également, le bâtiment aussi. Et en fait, c'est vraiment l'objectif, c'est de garder un témoignage de l'enseignement médical au 19e siècle.
Est-ce qu'on peut le visiter ?
Tout à fait, bah suivez-moi. Donc autour, il y a 16 grandes armoires qui reprennent les grands domaines de l'anatomie, donc anatomie normale, anatomie comparée et anatomie pathologique. Et au centre, on a 31 vitrines centrales. On a une organisation par topographie du corps. On va avoir une vitrine sur les mains, une autre sur les pieds, une autre sur l'appareil digestif. Alors en premier, vous avez toute cette partie-là qui est consacrée aux collections dites en fluide. C'est-à-dire que ce sont des spécimens naturels, donc des pièces réelles qui ont été...
Je décris juste qu'on voit, en fait, ce sont des tranches de cerveau, c'est ça ?
C'est ça, ce sont des coupes anatomiques qui sont transversales. La particularité, c'est qu'elles ont été faites sur un même corps. Donc là, on est dans les années 1920. On commence déjà, en fait, à étudier le corps par des séries de coupes qu'on va plus tard retrouver dans le scanner. Il faut bien comprendre, remettre dans le contexte de l'époque où on n'a pas encore l'imagerie médicale. Il faudra vraiment attendre la fin du 19e siècle pour avoir l'apparition des rayons X. Donc, on est dans un autre type d'anatomie. L'anatomie en étudiant, en fait, le corps qui est mort. Et à partir de la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, on va passer à l'anatomie du vivant, c'est-à-dire qu'on va, à l'aide de l'imagerie médicale, étudier le corps avec des patients qui sont encore en vie, et c'est ça en fait qui va révolutionner l'enseignement de la médecine. Là, on a la collection dite de tératologie, qui veut dire la science des monstres, donc c'est une terminologie qui était employé au 19e siècle. Et en fait, cette collection-là traite des malformations congénitales.
Et donc, pour décrire ce qu'on voit, ce sont des fœtus dans des bocaux avec du formol.
C'est ça, vous avez à la fois des fœtus humains qui présentent des malformations. Donc, soit on le voit tout de suite avec, par exemple, la lessive moelle, ou soit des malformations internes où on va procéder à des dissections pour comprendre pourquoi le fœtus est mort-né. Et on a aussi des spécimens qui sont des animaux. Par exemple, là, on voit un agneau qui a plusieurs pattes. Au 19e siècle, les étudiants étudiaient pas seulement le corps humain, mais aussi les animaux. C'est ce qu'on appelle aussi l'anatomie comparée, c'est-à-dire qu'on va étudier comparativement l'anatomie humaine et l'anatomie animale. Et il ne faut pas oublier qu'on a l'époque du darwinisme, on va s'interroger sur les origines de l'homme.
C'est la deuxième plus grande collection de France, non ? C'est pas ça, après Paris ?
Alors justement, nous, on a reçu en don toutes les collections anatomiques de la Faculté de médecine de Paris, qui ont été rapatriées en fait entre 2013 et 2016, qui sont ici dans les murs.
Et ça représente combien de pièces en tout si on additionne les deux ?
En tout, on est à un peu plus de 13 000 pièces.
On continue ?
Oui, alors là, on est devant l'armoire consacrée aux instruments médicaux, donc des instruments 19e, 20e siècle. Donc voilà, on voit des spéculums, on voit des clistères qui servaient au lavement des intestins. Et puis après, on a aussi des forceps.
Et qu'est-ce que c'est ? C'est, on dirait, des grosses seringues ?
Alors c'est ça, les clistères. Ça servait au lavage intestinaux.
Ça te donne une indication.
Je vais vous montrer la vitrine sur l'anatomie comparée. Voilà, cette belle vitrine, donc l'armoire 10. Voilà, c'est toute une collection de squelettes d'animaux.
C'est quoi la vitrine d'en bas ? C'est un squelette de quoi ? D'un crocodile ?
Alors ça, c'est un dauphin. Il faut aussi imaginer qu'au 19e siècle, ce lieu-là était un lieu de prestige où on enseigne en fait une discipline qui est importante au niveau scientifique. On va avoir quelque part un peu l'élite des sciences qui vont se former là, en même temps que des élèves artistes qui viennent étudier l'anatomie pour pouvoir exercer leur art. C'est vraiment un lieu qui était un lieu scientifique, mais aussi un lieu culturel de transmission des savoirs. Et les étudiants en médecine et les étudiants artistes en fait, se côtoyaient beaucoup ici et s'inspiraient.
Et on est passé à côté d'un personnage dont on n'a pas tellement parlé. C'est lui, le fameux écorché ?
C'est le bêcheur d'Alphonse Lamy, qui est en fait la mascotte du conservatoire. Donc sur toutes les photos, on a sa représentation.
grande armoire, elle représente des pièces naturelles, donc des restes humains. Ce sont des pièces sèches qui sont traitées au mercure et à l'arsenic, donc ce sont des pièces 19e. Les étudiants, en fait, à l'époque, avaient dans leur concours annuel, leurs examens, ils devaient réaliser des dissections. En plus de cette technicité de la dissection, ils devaient également être en mesure d'apporter les éléments chimiques avec le bon dosage pour la conservation de la pièce, donc mercure et arsenic.
Et ce qu'on voit là, l'appareil respiratoire, ça sont des poumons aussi, des vrais poumons.
Oui. Et donc là, on est sur la tête et le cou. Là, on est plutôt sur le dos et le bassin. Après, on va avoir les membres supérieurs et les membres inférieurs. Oui, en fait, le conservatoire, il est bien organisé. Au fur et à mesure de la visite, on comprend en fait que chaque vitrine a sa thématique qui permettait en fait à l'époque aux étudiants, bah voilà, ils avaient un cours sur le cœur, bah d'aller directement à la vitrine consacrée à ce sujet.
C'est des vraies têtes ?
Oui. Alors là, on est devant la vitrine des crânes du monde. C'est une vitrine particulière parce qu'en fait, on a à la fois des crânes naturels, on va avoir également des moulages de crânes, et puis voilà, on a ces têtes momifiées. Donc, qui sont des vraies têtes qui sont conservées ici. Donc là, on est dans la dernière partie du conservatoire qui est consacrée en grande partie aux collections d'anatomie pathologique. En face de nous, on a l'armoire 16 qui est consacrée à la syphilis. Donc on voit les trois stades de la syphilis, donc avec essentiellement des moulages anatomiques, donc c'est-à-dire des moulages qui ont été faits sur le corps réel. Donc des moulages anatomiques qui concernent en fait les parties génitales, vu qu'en fait dans le premier stade, ce sont les zones qui sont infectées en premier. Et la maladie va évoluer. Donc c'est la maladie caractéristique du 19e siècle. Et on voit avec l'importance de cette armoire consacrée à la syphilis que c'était vraiment une pathologie qui était enseignée à l'époque ici. Donc là, ce sont les ateliers d'artistes dont je vous parlais qui fabriquaient en fait ces reproductions issues de moulages anatomiques. Donc là, on est devant une armoire qui est consacrée à l'anatomie pathologique osseuse. J'ai travaillé en collaboration avec un paléo-anthropologue qui travaille à la faculté de médecine de Marseille. Et pendant 4 ans, avec ses doctorants, ils sont venus m'aider à faire l'inventaire de toutes les pièces ostéologiques sur les pathologies. Aussi, avec leurs connaissances, ils ont pu faire une réévaluation du diagnostic. C'est-à-dire qu'on a les diagnostics pathologiques du 19e et maintenant, on a aussi les diagnostics qui ont évolué de nos jours.
Ce sont réellement des momies qu'on voit là, allongées ?
Oui, ce sont des momies d'Antinoé, donc des momies coptes, les premiers chrétiens d'Égypte. Donc ce ne sont pas du tout des momies égyptiennes antiques. Et c'est pour ça qu'en fait, elles n'ont pas de bandelettes. Il y a des textiles des momies d'Antinoé.
Elle date de quand, la momie qu'on voit là ?
Donc en fait, c'est des momies qui datent du 1er, 4e siècle de notre ère, qui ont été envoyées vers les années 1903-1904 par l'État.
C'est les plus anciennes pièces de la collection ou il y a plus anciens ?
Oui, ce sont les plus anciennes pièces de la collection. Souvent, on nous demande pourquoi le lieu n'est pas ouvert au grand public. Étant en charge de la conservation de ces collections-là, il y a quand même une grande partie liée à l'éthique, vu qu'il y a beaucoup de restes humains ici. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment accompagner le visiteur, on veut vraiment qu'il y ait une médiation. Parce qu'en fait, lâcher un peu comme ça dans le conservatoire, on ne comprend pas. Et il y a beaucoup de questions qui se posent liées à des sujets de société. Hein. C'est pour ça que ce sont des collections dites sensibles aussi, parce qu'on aborde des thématiques qui sont un peu tabous, comme la mort, la sexualité.
La science s'amuse, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, amusez-vous bien.
La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil.
Voici notre itinéraire.
Au revoir, la croisière vous a plu ?
Oh oui, beaucoup, c'était merveilleux.